Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Bien, nous, au Québec, dans cette température qui nous semble un petit peu bipolaire. Fabrice Midal, vous pratiquez la méditation depuis plus de 25 ans. Vous avez débuté lorsque vous étiez jeune adulte, début vingtaine. On ne veut pas révéler votre âge, là,
non,
mais...
Non, j'ai commencé à pratiquer, j'avais 20 ans, je me sentais vraiment pas très bien. Et vraiment par hasard... J'ai frappé à la porte de quelqu'un qui enseignait la méditation et ça a vraiment été un choc. Tout de suite, j'ai senti que ça répondait à quelque chose de profond pour moi parce que j'étais vraiment pas un très bon élève à l'école et depuis que j'étais petit, tous les profs m'étaient peu mieux faire. Et puis là, il ne s'agissait pas de mieux faire, j'avais le droit d'être exactement comme j'étais. Mm-hmm. La seule instruction qu'on m'a dit, c'est assis-toi et juste sois. Entre en rapport au présent exactement tel qu'il est. Et ça m'a énormément apaisé. Et j'ai vu que c'était un chemin très révolutionnaire. Alors, je n'avais pas compris à l'époque toute l'ampleur de la pratique que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais ça m'a beaucoup frappé. Mmh. Et ce que vous avez dit dans l'introduction me semble vraiment important. Vous avez dit qu'aujourd'hui, la méditation se démocratise, mais il y a eu un long chemin. Il y a eu un long chemin parce que moi, quand j'ai reçu la méditation... Je la recevais de maîtres orientaux. Et la grande question, c'est comment transmettre cette pratique qui venait de l'Orient de manière complètement occidentale, en laissant tomber des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour nous, mais garder vraiment cette invitation extrêmement profonde à revenir au moment présent, à s'autoriser à être, à apprendre à se synchroniser avec notre situation et avec la respiration. Et des choses extrêmement simples qui peuvent énormément aider. Alors aujourd'hui, la méditation est beaucoup mieux connue, et en particulier donc parce qu'il y a tout ce travail de démocratisation qui a été fait, et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui permettent de montrer l'effet sur la santé, puisque c'est un peu le thème de votre émission, montrer que ça aide les gens aussi bien pour renforcer l'immunité, que aider les gens à mieux dormir, que lutter contre la dépression. Et donc on est en train de découvrir un continent qui est extrêmement exploré. Et donc, en racontant un peu mon propre parcours dans ce livre, Frappe le ciel, écoute le bruit, je raconte aussi, au fond, au-delà de ma propre personne, l'aventure de la manière dont la méditation, doucement, apparaît comme une réponse vraiment importante pour notre monde.
Plus connu, plus démocratique, en effet, mais en même temps, il y a beaucoup de mythes qui subsistent par rapport à la méditation. Vous en parlez dans le livre. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée... Lorsque vous affirmez dans le livre, la méditation, ce n'est pas être zen ou une technique nécessairement de relaxation ou être ne plus être stressé. Bon, ça, c'est qu'est-ce que n'est pas la méditation?
Super, je suis content que vous parliez de ça. Déjà, peut-être on peut parler 2-3 minutes de ça avant de dire ce que c'est, parce que vous avez raison. On a tellement l'idée que méditer, c'est être zen et tout ça. On a voulu simplifier pour essayer d'expliquer, mais là, on a trop simplifié. Il faut être pédagogique, mais pas trop simplifié. Et donc, on a l'idée que, déjà, pour méditer, il faudrait déjà calme, et puis il faut vouloir être plus calme. Mais ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire, la méditation, ça nous rend vivants, ça nous apprend à nous autoriser à être, ça nous permet de faire la paix avec nos blessures. Mais ça ne fait pas que nos blessures vont disparaître comme par magie. Donc, on a une idée un peu abstraite et qui, parce qu'elle est abstraite, semble très peu réaliste pour les gens. Moi, je médite, ça ne veut pas dire pour autant que je suis devenu, que je plane tout le temps, que je n'ai plus aucun problème. Si un de mes proches est malade, bien sûr, ça me fait de la peine. Je peux avoir un autre rapport à ça. Mais c'est beaucoup plus un chemin d'humanité, pour assumer pleinement notre humanité, qu'un chemin un peu abstrait. Moi, je trouve qu'il y a une idée un peu... disons, d'une certaine idée de calme, de sagesse, de zen, qui est un peu irréelle. Et on a une idée, c'est un peu irréel, et du coup, les gens, ils n'y croient pas beaucoup. J'ai une amie, elle me disait l'autre jour, moi, je veux pas méditer, j'ai aucune envie d'être calme tout le temps, moi, je suis content de temps en temps d'être en colère pour plein de choses. Mais j'ai dit, mais oui, la méditation, c'est pas ça. Tu peux être absolument comme tu es. Méditer, ça va juste permettre de t'autoriser à être, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de présence.
Ouais. Vous en parlez, ça, de l'espace formidable, comme si on était au sommet d'une montagne et que soudainement, il y avait tout cet espace disponible pour nous.
C'est très important de bien voir que l'expérience méditative, c'est pouvoir se relier à nouveau à l'espace. C'est comme quand on est au sommet d'une montagne, sentir un sens de bienveillance. Je pense que On peut très bien voir la différence quand on vit en pilotage automatique. On fait toutes les choses un peu mécaniquement. Des fois, on commence à prendre sa douche, puis on se retrouve dans la rue. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passait entre les deux. Et puis, on voit qu'est-ce que ça veut dire qu'être plus présent. Et on voit aussi qu'est-ce que c'est d'être vraiment dur envers soi-même et quand il y a plus de bienveillance.
Ouais.
Puis on voit qu'on est tout le temps en train de s'excuser d'elle, qu'on sent qu'on n'a pas vraiment confiance, qu'il y a un truc qui ne va pas, et qu'on rentre dans la confiance. Et bien, la méditation, c'est découvrir la présence, découvrir la bienveillance et découvrir cette confiance. Non pas comme quelque chose qu'il faut fabriquer, qu'il faut réussir à faire, mais comme quelque chose qu'on découvre qui est déjà là, mais qu'on ne savait pas comment le rejoindre. Et méditer, c'est rejoindre cette présence, rejoindre cette confiance et rejoindre cette bienveillance. Ouh, mais le soulagement que c'est. Et on se rend compte à quel point ça change profondément la vie, dans plein de difficultés et de souffrances que les gens ont. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup avec les médecins en France, dans beaucoup d'hôpitaux, simplement d'aider les gens à entrer en rapport à ce qui leur arrive, plutôt qu'être juste dans la réaction ou dans la peur de ce qui leur arrive. Des fois, on vit des choses qui sont difficiles. Alors, si on dit que la méditation, c'est pour que les choses ne soient pas difficiles, les gens se disent, mais non, j'y crois pas. Mais si on leur dit que ça peut les aider à avoir un rapport plus apaisé à ce qui leur arrive, ça devient vraiment là beaucoup plus consistant. Et donc, beaucoup de travail que je fais dans les hôpitaux est lié à cet autre rapport qu'on peut avoir avec les difficultés, aussi bien douleurs chroniques, que des difficultés plus psychologiques.
Je suis contente que vous parliez de bienveillance parce que ça pourrait être un obstacle à notre pratique, à la méditation, ce non-amour que l'on aurait envers soi-même.
Ah oui, et puis je pense que ça, la méditation, c'est très important. Aujourd'hui, on a tendance des fois un peu à réduire la méditation à une sorte de pleine conscience. Et on oublie complètement que la méditation, c'est d'abord une expérience de bienveillance. Et dans le livre, puisque je raconte un peu mon chemin, je raconte ce qui a été vraiment les étapes majeures, c'est-à-dire vraiment comment je m'en voulais énormément. Et même au début, quand j'ai médité, je méditais un peu parce qu'il y a plein de choses que je voulais changer de moi. J'avais fait une sorte de liste de tous les trucs que je trouvais insupportables et que j'espérais, grâce à la méditation, être débarrassé. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, il faut apprendre à avoir de la bienveillance pour nos difficultés. Et doucement, elles s'apaisent parce qu'on a de la bienveillance. On a beaucoup de mal à le comprendre. Mais si on parle de la personne qu'on aime, on arrive à voir que ses difficultés ou ses défauts sont aussi ses qualités.
Mmh.
On arrive à voir que, bien sûr, des fois, elle est tendue, elle est un peu perfectionniste, mais qu'au fond, il y a quelque chose de très beau dedans et qu'il vaut mieux qu'elle arrête de s'en vouloir et qu'elle se détende. Et alors, ça ira un peu mieux. Mais on a beaucoup de mal à voir pour nous-mêmes qu'on pourrait prendre ce chemin-là. Et donc, dans ce livre, Frappe le ciel, écoute le bruit, j'ai vraiment voulu montrer comment ça s'incarne, cette notion de bienveillance. Et du reste, c'est pour ça que j'ai pris un titre un peu singulier, Frappe le ciel, écoute le bruit. Parce que je ne voulais pas un titre, grâce à la méditation, vous allez être calme, grâce à la méditation, tous vos problèmes vont être résolus. Parce que je trouve que c'est très restreint. Moi, je vais vous dire, si je parle vraiment franchement, qu'est-ce que ça m'a apporté, la méditation? Ça m'a toujours surpris. Je vais méditer et ça m'apporte ce que j'ai besoin, mais que je ne savais pas forcément avant de méditer que c'était ça dont j'avais besoin.
Mm-hmm.
Comme si le fait de revenir à la présence, à la bienveillance, à la confiance, nous guérissait là où nous sommes blessés. Et souvent, on ne se rend même pas compte qu'on était blessé. Souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des douleurs en nous qu'on n'a pas vues, reconnues. Et donc, la méditation, c'est vraiment un travail de guérison, mais très profond. Et en même temps, incroyablement simple. Et donc, je crois que c'est très, très important de dire aux auditeurs que méditer, c'est très simple. C'est aussi simple que de se laver les dents. De la même manière qu'on se lave les dents, on ne réfléchit pas, on le fait, on sent qu'on sent mieux, mais on médite 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, puis on se rend compte que ça transforme notre existence. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel. De la même manière qu'au XXe siècle, on s'est rendu compte que nous, qui devenions citadins, on a eu besoin de faire du sport. Nos arrière-grands-parents n'avaient pas besoin de faire du sport. On a inventé le sport parce qu'on devenait citadins. Mais je crois qu'au XXIe siècle, on découvre que il y a une manière de réapprendre à être présent, à être bienveillant et à retrouver un sens de confiance parce qu'on est en train de le perdre, parce qu'on est tellement pris par tout ce qu'il faut faire, la course, etc. Nos arrière-grands-parents, ils pouvaient rester à regarder le feu de cheminée.
Oui, regarder les saisons passer.
Regarder le feu de cheminée, ils n'avaient pas besoin de faire un selfie, l'envoyer à tous leurs copains ou regarder. Vous voyez, et on n'avait pas l'impression que c'était étrange, que c'était mystique. On a l'impression que quelque chose de très ordinaire. Et la méditation, c'est aussi ordinaire, c'est réapprendre ça. Il peut y avoir des gens qui ont un engagement beaucoup plus profond, qui veulent trouver une dimension plus spirituelle dans la méditation. Ce dont je parle aussi dans mon livre, parce que c'est mon cas. Mais des gens, ils vont vouloir méditer, et je trouve que c'est tout à fait légitime aussi, juste comme ils se lavent les dents, comme on fait du sport, pour garder un rapport de présence et de bienveillance à soi, aux autres, et et au monde. Moi, il y a quelqu'un qui a lu mon livre et qui m'a dit, ah, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'allais chercher mon enfant à l'école, quand j'allais sortir du travail, il était dans un état de panique intense. En fait, comme moi, j'allais mal, il sentait que j'allais mal, c'était très difficile. Oui. Puis je me suis dit, je vais méditer juste 5 minutes avant d'aller le chercher. Et elle m'a dit, c'était étrange, juste en pratiquant un peu avant d'aller le chercher, quand j'allais le voir, au lieu de faire qu'il fasse des scènes, il était lui-même beaucoup plus présent, il était beaucoup plus là. Il sentait que sa maman était plus disponible pour lui parce qu'elle avait pratiqué un peu, vous voyez. Donc il y a plein de manières dont la méditation peut aider.
Peut résonner chez les autres aussi.
Voilà, selon leur vie, vous voyez, moi c'est pas... Chacun selon sa vie propre.
Fabrice Mindal, vous avez dit que la méditation a beaucoup à voir avec ce retour à l'expérience de ne pas savoir, d'être questionnant. Un peu aussi en lien avec votre titre. On se questionne justement sur ce titre-là, « Frappe le ciel, oui. Écoute le bruit ». Comment on peut se remettre dans cet état de questionner?
Oui, je crois que quand on questionne, quand on est un peu comme un enfant, au fond, vous savez, méditer, c'est au fond peut-être redevenir un peu un enfant. On est émerveillé, on questionne, on ne sait pas tout. Puis il y a des moments, on est tous un peu pris par là, on essaye de bien faire, et on finit par avoir des réponses à tout, et tout est un peu fermé, et on court, et on fonce, et on veut absolument tout contrôler. Cette volonté de tout contrôler, au fond, elle se retourne contre nous. C'est important d'essayer de faire au mieux. Puis à un moment, on veut tellement bien faire que c'est plus vivant. Et donc, cette idée que... La méditation nous aide à, plutôt qu'avoir des réponses toutes faites, avoir toujours raison, à être comme un sage qui sort de l'évite au-dessus du monde. Je voulais essayer de montrer que méditer, c'est au fond questionner, être plus innocent, être un peu comme un enfant, être complètement ouvert et disponible, pouvoir se réémerveiller du monde, s'étonner des choses. Mm-hmm. Donc je trouve que juste en méditant, c'est ça qui se passe. Donc méditer, c'est vraiment on s'assoit et on ne fait rien. Pendant quelques minutes, on synchronise à nos perceptions sensorielles, on se rend compte qu'on est complètement déjà ouvert au monde, qu'on n'a rien à faire pour entendre, pour voir, on respire, on n'a pas à respirer d'une manière particulière, on n'a pas à se détendre, on n'a pas... Parce que quand on veut se détendre, déjà, on commence à se crisper parce qu'il faut qu'on se détende. Donc on ne cherche pas à se détendre, on ne fait rien, on essaie juste d'entrer en rapport à ce qui est là, à ce qu'on sent. Et c'est très rare qu'on s'autorise juste à sentir ce qu'on sent. C'est tellement important. On est tellement pris par notre esprit cérébral qui est très, très efficace pour organiser les choses, mais qui est beaucoup moins efficace pour être à l'écoute de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, c'est très, très pratique de pouvoir voir pourquoi, où j'ai garé ma voiture, comment je vais la mettre, etc. Mais ce même esprit ne permet pas de savoir pourquoi je suis triste. Il faut que j'écoute, là. Et on ne s'autorise plus à pourquoi je suis triste, là. Qu'est-ce que je sens? Peut-être que ce n'est pas vraiment de la tristesse. Mm-hmm. Et qu'est-ce que je sens? Et vous voyez, méditer, c'est donner le droit à pouvoir faire l'épreuve de ce qu'on fait tel que c'est. C'est peut-être pas aussi bien qu'on voudrait. On est peut-être un peu déçu de sentir ça, mais si on ne s'autorise pas à sentir ce qu'on ressent, il y a quelque chose d'inauthentique qui est et quelque chose qui est faux. Mm-hmm. Et je crois que le premier mouvement, après il y a plein de choses qui vont se passer, mais le premier mouvement que nous invite à faire la méditation, c'est vraiment prenez le temps de juste faire l'épreuve de ce qui vous arrive là maintenant. Et vous allez découvrir que notre corps sait des choses tout à fait étonnantes. Mm-hmm. Qu'on n'écoute pas assez. Il dit oui, il dit non. En nous, on sait des choses, mais on ne questionne pas, on a tellement peur de prendre ce temps-là. Et donc la méditation, ça a beaucoup à voir avec travailler sur la peur. Oui. C'est vraiment... vous voyez, c'est des choses très étonnantes que j'ai apprises dans la méditation, qui vont vraiment à l'encontre d'une idée un peu abstraite. Moi, la méditation, ça m'a aidé à avoir de la bienveillance, à accepter, quand je suis triste, d'être triste. Et ça m'a permis vraiment de travailler avec la peur. Comprendre que la peur, c'est un obstacle que si j'ai peur d'avoir peur. Mais sentir la peur, il y a quelque chose de tendre aussi, de pouvoir accepter
notre peur.
Parce
que dès le départ, dans votre livre, vous en parlez en toute ouverture de ces peurs-là. Vous étiez terrorisé lorsque vous avez commencé votre pratique de méditation.
Oui, absolument. D'abord, je voulais trop bien faire. J'étais complètement crispé. J'ai pris ça comme un nouveau défi. Il fallait absolument que je réussisse. C'est très impressionnant comment on s'en veut. En tout cas, moi, comme je m'en voulais beaucoup, et comment la méditation a permis d'aérer tout ça.
Oui. En terminant, pour les gens qui nous écoutent et qui auraient envie de plonger dans cette aventure, dans ce cheminement-là, on commence par quoi? Parce que on le comprend bien, c'est simple, c'est accessible, tout le monde peut méditer, mais si on veut commencer un jour à la fois, parce qu'il faut bien commencer un
Alors, je dirais, non, je suis très content parce que moi, je trouve que c'est important que les gens voient comment on fait pour méditer. Donc, je suis content dans le livre. C'est vraiment, il y a un DVD où je montre comment méditer. Donc, ce n'est pas juste un livre où vous allez apprendre des choses en le lisant, mais après, on vous montre comment on fait, donc vous pouvez le faire. Donc ça, je suis très, très content que les éditions de l'Homme ont accepté que je mette un DVD parce que je crois que c'est important. Et après, il existe pas mal de coffrets. Moi, j'ai fait une série de 3 coffrets pour apprendre à pratiquer sur la bienveillance aimante et sur la confiance. Et je crois que les CD sont la meilleure manière, parce que vous écoutez le CD, ça dure 5 minutes, 10 minutes, vous entendez une plage, vous n'avez rien à faire qu'à écouter la voix, donc vous n'avez pas à vous prendre la tête, et puis quand c'est fini, puis vous recommencez, et donc ça vous guide, et c'est vraiment très simple. Alors, je dis souvent que je crois que la méditation s'est démocratisée le jour où on a pensé à faire des CD. Parce qu'avant, comment vous faisiez? Vous étiez obligé d'aller dans un centre de méditation. Souvent, ils sont religieux. Vous n'avez peut-être pas envie de venir zen.
Il faut s'habiller en blanc.
Voilà, vous n'avez peut-être pas envie. Donc là, vous pouvez juste être comme vous êtes, chez vous. Vous pratiquez pendant quelques minutes. Puis, moi, je dirais, c'est tout simple. Vous achetez un CD. Vous le faites pendant une semaine, 5, 10 minutes par jour. Puis, vous voyez si ça change votre vie ou pas. Si après une semaine, vous avez l'impression que ça vous aide, ben, continuez. Puis, si ça ne vous aide pas, vous laissez tomber. Vous allez voir. Et sans doute, ça va vous aider. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais en une semaine, vous allez voir. Et c'est très différent pour chacun. Il y a des gens, ça va les apaiser, mais il y a d'autres, ça va leur donner plus d'énergie. C'est ça que je dis, ça dépend chacun. Il y a des gens, ils manquent d'énergie, donc ça leur donne de l'énergie. D'autres, ça les apaise. D'autres, ça les rend plus joyeux. D'autres, ça leur permet de toucher leur douleur. Et donc, ça les réconforte. D'autres se sentent plus en lien avec les autres. Et après, il y a des gens qui sont plus sensibles à la pratique de la présence attentive ou pleine conscience, et d'autres qui sont plutôt plus sensibles à la pratique de l'amour bienveillant. Et ça, c'est un de mes grands engagements dont je parle dans le livre et que je monte dans le coffret sur l'amour bienveillant chez Audiolib, à quel point c'est important de découvrir des pratiques pour s'entraîner à avoir de l'amour pour soi et pour les autres.
Ouais. www.fabricesemidal.com, c'est votre site pour en savoir davantage et pour consulter les autres ouvrages, parce qu'il y en a plusieurs autres. Frappe le ciel, écoute le bruit, le livre qui donne envie de méditer. Vous entendre aussi, Fabrice Midal, ça donne envie de méditer.
Merci
aux éditions
à vous.
De l'Homme. Merci beaucoup de votre passage.